filtre.
Vous écoutez Pierre Nantel, Cube Radio.
Pendant que le Québec enregistre des sommets records de cas de COVID et le premier ministre qui vient d'annuler officiellement Noël, en fait, les rassemblements prévus et promis, la campagne de vaccination au Canada commence à se préciser au niveau des transports. On va évidemment avoir la chance d'en parler avec notre scientifique en chef du Québec, le monsieur Rémi Quirion. Bonjour, monsieur Quirion.
Oui, bon matin.
Ben, bon matin à vous. Merci de prendre le temps de nous appeler. Vous devez être une personne pas mal occupée. Dites donc, la question de la vaccination est actuellement sur toutes les lèvres et on n'a pas de date précise au Canada. Quelle est votre réaction à ça? Comment expliquez-vous ça?
Ben, ça s'en vient très, très, très bientôt, là, aux États-Unis, l'organisation qui approuve les médicaments, le Food and Drug Administration, devrait approuver le premier vaccin, là, au cours des prochains jours, le vaccin de Pfizer. Et le Canada, avec Santé Canada, va suivre quelques jours après. Donc, tout se met en place, là, pour être capable de commencer à vacciner en janvier, février 2021.
Êtes-vous sous l'impression? Vous êtes sous l'impression, donc on ne devrait pas s'inquiéter trop de la livraison. Quand même, il y a eu beaucoup de questions relativement au fait qu'on n'était pas en mesure de produire, donc c'est pour ça qu'on n'en avait pas. D'après vous, on va les avoir assez vite quand même?
Oui, oui, de Pfizer et aussi l'autre compagnie, le deuxième vaccin de Moderna. Moderna devrait être approuvé aussi rapidement après celui de Pfizer. Et bon, les États-Unis vont l'avoir quelques semaines avant nous, là, mais pas des mois avant nous, là. Donc, on va rapidement, après les Américains, avoir accès à des bonnes quantités de vaccins. C'est certainement le premier envoi. Ça permettra pas de vacciner tous les Canadiens, mais en priorité, personnes âgées, personnes à risque, bien sûr, les gens qui travaillent dans le milieu de la santé. Donc, ça va se déployer assez rapidement là, en début d'année. Et d'ici au printemps, on devrait avoir fait pas mal de progrès. Là.
Le Québec s'est démarqué durant la pandémie de plusieurs manières. Est-ce que ici on peut avoir une inquiétude de collaboration, par exemple? Est-ce que le Québec voit d'un bon œil cette organisation qui est faite par le major général Fortin?
Oui, je pense que oui. Hier, j'ai eu l'opportunité de discuter avec Richard Massé, qui est à la santé publique. Le Québec a une assez bonne tradition en termes de vaccination. Donc, notre infrastructure est de bonne qualité. Il y a des bonnes interactions avec les équipes au fédéral. Donc, je pense que les équipes au Québec sont assez confiantes là, que ça devrait aller rondement une fois qu'on a accès au matériel, qui, bien sûr, inclut le vaccin. Mais ça inclut aussi s'assurer qu'on a suffisamment de seringues, s'assurer qu'on a suffisamment aussi de congélateurs à très basse température, parce que les deux premiers vaccins, il faut les garder à moins de 80 dans des congélateurs spéciaux, là. Donc ça aussi, tout ça s'en vient, là. Les gens sont assez optimistes, ça devrait bien fonctionner.
Vous évoquez les seringues, en riant un peu, mais c'est vrai quand même que ça demande une quantité phénoménale. Est-ce que ça sera entre autres dans la distribution prévue par l'armée ou si c'est le Québec qui est autonome dans ses fournitures?
Oui, il y a aussi le fédéral, finalement, a fait des commandes pour l'ensemble du Canada. Donc ça, il ne devrait pas avoir de pénurie de ce côté-là. Là. Tout est regardé, bien sûr. En plus de ça, il y a le personnel aussi, s'assurer qu'il y a le personnel adéquat pour être capable de vacciner les gens. Parce qu'étant donné que ce vaccin-là doit être conservé dans des conditions un peu spéciales, bon, on ne pourra pas vacciner, là, par exemple, dans un premier temps, dans les pharmacies, parce qu'on n'a pas accès à ce genre de frigo, de congélateur-là, de basse température. Donc, en termes de logistique un peu compliqué, mais les gens sont assez confiants que ça devrait se passer assez rondement. Et par la suite, un peu plus tard, on va avoir d'autres vaccins qui n'ont pas besoin probablement d'être conservés à des températures aussi basses.
Exactement. Monsieur Quirion, en tant que scientifique en chef du Québec, votre homologue, votre parallèle à Ottawa est Mme Mona Nehmer. Est-ce que vous aussi voyez d'un bon œil cette décision qu'a pris M. Legault, donc évidemment, là, d'invoquer que le si des conditions non favorables a mené au fait qu'on annule les rassemblements prévus pour les fêtes?
Oui, je pense que oui. On était tous assez contents de la décision il y a 2-3 semaines. Mais en voyant le nombre de cas qui ne diminue pas, au contraire, qui augmente depuis plusieurs jours, et aussi les hospitalisations, le nombre de décès, ce qui se passe dans d'autres régions du monde, aux États-Unis bien sûr, mais aussi dans certains pays européens. Donc en se disant, si on se réunit un peu trop, on célèbre un peu trop dans le temps des fêtes, ben le mois de janvier va être très compliqué. Donc, je pense que c'est mieux de faire un peu de sacrifice. C'est sûr qu'on a hâte de s'en sortir, là. Et le vaccin est un espoir de ce côté-là, mais on a encore un petit bout à faire avant d'être rendu là, non?
Dites-moi, beaucoup de gens ont remarqué la remarque de M. Legault quant au fait que c'était une décision politique et non pas de la santé publique. Comment interprétez-vous cette précision-là qu'a fait M. Legault hier?
Je pense qu'il avait été sur la base de certaines informations là qu'ils avaient. La santé publique avait dit, bon, vers le 11 décembre, il faudrait là vraiment avoir une décision finale. Est-ce qu'on y va pour des réunions dans le temps de Noël ou non? Et voyant le nombre de cas qui continuait toujours à augmenter, finalement, le gouvernement s'est dit, bah, dans un sens, pourquoi attendre au 11 décembre? Là, parce qu'on n'aura pas de possibilité de faire descendre beaucoup le nombre de cas au cours de la semaine qui vient. Là, c'est très peu probable. Donc, de se dire, on va peut-être mieux se protéger plus tôt. Aussi protéger tous les acteurs dans le réseau de la santé, là, les infirmiers, infirmières, les médecins, tout ce beau monde-là, c'est des mois qui travaillent très, très, très fort. Donc, épuisé, si on ne veut pas en rajouter sur ça au mois de janvier, c'était peut-être mieux de se protéger de cette façon-là. Et le gouvernement de prendre la décision, en bout de ligne, c'est... Les élus, ça fait partie de leur travail de prendre ce genre de décision-là.
Et de rester, de s'assurer que la population ne décroche pas des consignes. On est tous assez ravis de voir l'intérêt de la majorité de la population de se faire vacciner. Il y a beaucoup de gens, par contre, qui s'inquiètent quand même des effets. On a entre autres des informations qui émanent relativement à des possibles effets secondaires. Et plusieurs scientifiques nous disent qu'il faut pas trop s'inquiéter des effets secondaires puisque la balance, parler de balance d'inconvénients. Ici, on peut parler de la balance des bienfaits du vaccin relativement aux inquiétudes que les gens peuvent avoir. C'est minime, le risque.
Oui, en général, les effets secondaires pour la majorité des vaccins, c'est assez minime. La recherche qui a été faite, c'est sûr qu'on a fait rapidement. Hein, on n'a jamais fait aussi rapidement développer un vaccin contre un virus. Mais en même temps, ça n'a pas été en faisant les coins ronds. Là, ça a été de faire des choses en parallèle. Parce qu'en général, les compagnies attendaient d'avoir vraiment des données très, très solides, d'effets positifs en ce qu'on appelle une phase 3, avant de commencer à produire le vaccin. Et là, finalement, ils ont décidé d'y aller, même s'il n'y avait pas encore toute l'information, de commencer déjà à produire le vaccin, en se disant, on espère que ça va marcher, ça ne marche pas, bon, on va avoir perdu un peu notre temps, mais finalement, ça a permis de sauver plusieurs mois, parce que là, dès que le vaccin est approuvé par Santé Canada, par exemple, on peut le mettre sur le marché tout de suite. On a suffisamment de doses pour commencer à vacciner là. Donc, la recherche a été faite de façon très, très solide, excellent. Donc, moi, je suis confiant là que le vaccin va avoir des effets bénéfiques, très peu d'effets secondaires. Et ce qui est intéressant ici aussi, c'est qu'on en a déjà deux qui sont tout près d'être approuvés et d'autres qui s'en viennent. Il y en a plusieurs d'autres compagnies qui s'en viennent. Donc, on va avoir aussi une batterie de vaccins et dépendamment des types de personnes, ben peut-être qu'on pourrait donner un vaccin de type A à quelqu'un plutôt que le type B. Là. Mais on n'est pas rendu là encore, mais éventuellement, ça pourrait être ça.
C'est si on n'est pas encore dans une situation de choix. Parce qu'effectivement, la santé publique du Canada avait, l'an dernier, cherché à réagir à la circulation grandissante de fausses informations. On y voyait, entre autres, qu'il n'y avait aucune preuve d'un lien entre un décès et un vaccin depuis au moins 2012 sur près de 200 millions de doses administrées de tout type de vaccins. Donc, on doit encourager les gens à pas craindre cet effet-là. De toute façon, on n'est pas encore devant le choix, mais de différents vaccins. D'ailleurs, est-ce qu'il y aura des vaccins qui, d'après vous, sous votre angle de scientifique en chef du Québec, qui se prêteront mieux à certaines clientèles que d'autres?
Possiblement. C'est certain que les deux premiers vaccins qui vont être utilisés, c'est avec une technologie nouvelle. De développer le vaccin, là, on appelle ça une stratégie ARN, un peu différent des stratégies habituelles. Donc, la deuxième série de vaccins, ça va être, je dirais, des vaccins peut-être un peu plus conventionnels. Donc, peut-être que dans le temps, on va voir que pour certaines personnes, peut-être des groupes d'âge, par exemple, là, serait mieux un type de vaccin que l'autre. Encore une fois, on n'est pas rendu là, mais comme vous l'avez dit, là, les effets secondaires pour la très grande majorité des vaccins contre différentes maladies un peu partout dans le monde, là, c'est très, très limité comme effet secondaire. Donc, je pense qu'il faut vraiment y aller, se faire vacciner et protéger nos voisins, nos amis aussi, là, parce que c'est un peu une responsabilité civile là, de penser aux autres, pas penser seulement à nous autres dans ce cas-là.
Effectivement, la presse ce matin, M. Quirion évoque que l'OMS envisage la création d'un certificat de vaccination électronique. Beaucoup de gens se demandent est-ce que la vaccination devrait être obligatoire, mais au niveau d'avoir un certificat de vaccination, par exemple, pour accueillir des étrangers ou pour voyager, où logez-vous sur ce sujet?
C'est intéressant aussi. Là, on va voir un peu ce qui va arriver au cours des prochains mois. Ça existe déjà, hein, contre d'autres maladies. Si, par exemple, vous voulez y aller dans certains pays africains où il y a la fièvre jaune, ben, il faut avoir un carnet de vaccination pour être capable d'entrer dans le pays. Parce que c'est une maladie qui est très agressive et mortelle, là. Donc, est-ce que la COVID, ça va être comme ça et les pays vont demander aux arrivants dans le pays de démontrer qu'ils ont été vaccinés? Il y a beaucoup de discussions, je pense, dans l'industrie aéronautique de ce côté-là et aussi plusieurs pays, incluant l'organisation internationale comme l'OMS. Donc, on n'est pas tout à fait rendu là, mais ça ne me surprendrait pas là, que dans le temps, à tout le moins pour repartir l'industrie aéronautique et aussi là, tout ce qui est touriste d'affaires ou touriste de plaisir, qu'au point de départ, plusieurs pays demandent des preuves de vaccination. Est-ce que ça va durer dans le temps? Je ne sais pas, mais comme je disais, pour la fièvre jaune et d'autres maladies mortelles, c'est en place depuis très, très, très longtemps, ce genre de carnet de vaccination-là.
Mm-hmm. Comme ambassadeur de la science, M. Quirion, vous devez être bien fier quand même de toute la communauté de recherche et en pharmaceutique pour cette course au vaccin. C'est une primeur historique, ça.
Non, ça, c'est vrai que la pandémie a beaucoup d'effets négatifs. On peut pas le nier, là. Mais du côté science, d'amener tout le monde de plusieurs pays, de travailler ensemble, de rendre leurs résultats disponibles dès qu'ils ont les résultats confirmés, si tout le monde peut avoir accès à ces résultats-là pour être capable d'aller plus rapidement. Donc vraiment, là, ça a démontré une synergie assez exceptionnelle et on espère que ça va continuer une fois qu'on sort de cette pandémie-là, par exemple pour les changements climatiques, l'environnement, développement durable, qu'on va aussi utiliser le même genre d'approche. Ça existe déjà. Et avec la pandémie, on a vu qu'on pouvait faire encore beaucoup plus et aller beaucoup plus rapidement. Donc ça, c'est vraiment assez exceptionnel.
Monsieur Curieux, vous parlez d'une collaboration internationale. On peut parler aussi d'une collaboration même ici au Québec. Vous avez certainement été très impliqué dans l'orientation des ressources, des intervenants dans le vaccin de Medicago au Québec.
C'est certain qu'il y avait ici pour le vaccin Medicago, aussi dans le milieu universitaire avec le professeur Gary Coppinger à l'Université Laval. Et il y en a d'autres, il y a des gens aussi à Sherbrooke, à Montréal. Fait que les gens ont travaillé très rapidement ensemble. Et nous, on recevait plein de propositions là en tout début de pandémie. On disait, ben non, comment on peut aider? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est vrai pour les vaccins, c'est vrai pour les technologies médicales, c'est vrai pour le pharmaceutique. Donc, d'avoir cette cohésion-là, et bien sûr, on a financé différents types de projets de ce côté-là, là, mais c'est très, très bien de voir ça. Et maintenant, on espère, comme je disais, utiliser peut-être un peu cette même stratégie-là pour dans d'autres
secteurs. Bien sûr, pour la crise climatique.
Comme les climats, oui.
Bien sûr. Dites-moi, Dr. Quirion, en terminant, sur le site officiel du scientifique en chef du Québec, sur votre site, il y a quand même ce qu'on appelle question-réponse rapide. Et on voit dans la question, en voulant aller trop vite, la recherche ne serait pas faite dans les règles pour les vaccins. Et la réponse est assez candide. C'est écrit « peut-être ».
C'est sûr qu'au point de départ, on savait pas. Moi, je dois dire qu'il y a peut-être même seulement 6 mois. Je me disais que pour avoir les premiers vaccins capables de les administrer à des humains, ça irait dans une population assez large, ça irait pas avant l'été ou l'automne 21. Mm-hmm. Donc, et je pense que c'est là, un peu comme je disais, c'est que des activités de recherche ont été faites en parallèle, qui a permis d'accélérer beaucoup. Et pour les deux premiers vaccins, ben, c'est des technologies qu'on connaissait mal. Mm-hmm. On n'avait pas réussi à développer des vaccins en utilisant cette méthode-là. Donc, lorsqu'ils ont été testés en premier, dans des études pilotes avec des taux d'efficacité là, de 90 %, ça a surpris à peu près tout le monde, je pense. Là, mm-hmm. Parce que c'était assez inattendu.
Fait que peut-être que vous allez vouloir corriger la réponse qu'on va là. Peut-être, oui. Mais c'est prometteur. Ben, M. Quirion, scientifique en chef du Québec, merci d'avoir pris le temps de nous appeler. Bonne journée, bon week-end.
Merci beaucoup.
Merci. René Quirion, scientifique en chef du Québec.